Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Mardi dernier, nous avons évoqué l'installation d'Alexandra David-Nel à Kumbum en juillet 1918. Son bonheur d'être dans ce grand monastère, dans le silence, dans la beauté des paysages, avec une bibliothèque bien garnie qui lui permet de travailler. En fin d'année, affourée malade et bientôt la fièvre envahit Alexandra. Mais vite rétablie, elle continue de travailler et bien sûr d'écrire aussi à Philippe Nel, son mari. Le 21 décembre, elle écrit « De nouvelles lettres reçues aujourd'hui m'annoncent que la guerre est bien décidément finie et que les Allemands ont dû se résoudre à se rendre sans condition, tout comme leurs alliés les Turcs et les Autrichiens. Nous confectionnons une nouvelle oriflamme tricolore, plutôt une sorte de longue banderole sur laquelle nous allons mettre une inscription que les Tibétains placent volontiers au sommet des montagnes ou des cols et qui peut se traduire par « Victoire aux dieux, les démons sont vaincus ». Ces mots écrits bien sûr en tibétain. Ce sera tout au moins original et sans doute l'unique exemplaire du genre. Si je puis en réussir une photo, je te l'enverrai comme document souvenir. Je n'ai pas besoin d'expliquer comment la seconde partie de l'inscription « Les démons sont vaincus » est d'actualité en parlant des boches. Puis Alexandra va s'enfermer en une retraite. « Je ne vois personne, sauf à four. Ma petite véranda est entourée de rideaux. La règle veut que personne ne m'aperçoive et je suis censée ne pas jeter un coup d'œil au dehors. J'aime beaucoup cette période de tranquillité absolue. Même celles plus sévères durant lesquelles je ne parle pas et ne vois même pas à four, celui-ci m'apportant mes repas dans une chambre tandis que je me tiens dans une autre. On est si bien pour lire, pour étudier, pour penser, lorsque l'on s'isole ainsi du monde extérieur. Pour le moment, je lis et compile un gros bouquin tibétain. Je vais continuer ma retraite durant 6 semaines. Jusqu'au temps du grand festival où la curiosité du spectacle pittoresque me poussera dehors. Cela finit, je crois bien que je me renfermerai jusqu'au printemps. » Pourtant, Alexandra va donc quitter pendant 2 jours sa retraite pour faire son office de médecin. Nous sommes le 26 janvier 1919 et elle raconte cette anecdote à Philippe. « Il m'est arrivé l'autre jour une aventure peu plaisante. Un petit fonctionnaire chinois m'avait prié d'aller voir sa femme malade. J'avais d'abord refusé, mais il était revenu, priant, insistant, si bien que je consentis, tenté un peu aussi par une chevauchée d'environ 40 km pour avoir été si longtemps privé de monter à cheval. Le matin convenu, on m'amène 2 mules, une pour moi, l'autre pour Afour. À Four, peut-être il est utile de vous repréciser que c'est à Four Yongden, hein, ce jeune garçon très intelligent, érudit aussi, qui l'a suivi depuis l'âge de ses 14 ans et qui l'a suivi jusqu'à Digne plus tard. Un parent de la malade nous sert de guide et nous partons. Temps splendide, jolie piste, aisée, à part quelques descentes un peu raides. Ma mule est lente, mais pas trop mauvaise, tout va bien. Quelques paysages intéressants en cours de route qui auraient fait de belles photos. Par exemple, un groupe de chameaux joliment posés à un abreuvoir. Nous arrivons. Maison de riches villageois. Tout de suite, un repas est servi. Bon, ma foi. La malade, c'est un cas chirurgical. Et j'ai tâché de persuader la famille de l'envoyer à l'hôpital de Lanzhou. En même temps que l'on faisait appel à moi, l'on avait aussi invité un lama à venir officier. Je le trouve dans une chambre enfumée, en face des ustensiles de sa profession. Un jovial gaillard, parlant bien le tibétain, qui, en dépit d'une névralgie qui le tenaille, nous amuse de reparties pas mal tournées. Le soir vint, après un nouveau repas, nous songeons à dormir. On nous a donné la plus belle chambre, occupée dans sa presque totalité par une estrade, partagée en deux par de petites tables basses sur lesquelles sont empilés des gâteaux et autres friandises. Nous en avons tellement l'habitude de ces nuits sans confort, roulées dans nos manteaux, chacun dans son coin. Ici, la chambre est bonne. Pas très longtemps après m'être endormie, je me réveille. Sensation singulière, je sens que je m'évanouis. Je ne peux plus bouger. Ma pensée cependant perce au milieu de cette torpeur pénible. Je comprends que nous nous asphyxions. J'appelle à moi ce qui me reste de force pour crier « Petit, petit, vite, lève-toi, emporte-moi d'ici !» Mais Petit ne répond pas. Je suis incapable de me mouvoir pour aller jusqu'à lui. Je crie plus fort et à la fin, un grognement me répond. Je reprends « Vite, vite, lève-toi, nous allons étouffer !» Alors, réveillé, il comprend, fait un grand effort, arrive à moi, me traîne dehors. Il se traîne à peine lui-même. Près du seuil, je lui échappe. Et tous les deux nous voilà par terre, vomissant éperdument, incapables de nous le relever pour nous tirer de notre saleté. Nous sommes beaux tous les deux dans la nuit. C'est une nuit de pleine lune et la température doit être dans les environs de moins 20 degrés sous zéro. Cependant, après un temps, force fut de rentrer, mais il m'était impossible de me réchauffer. Afour me couvrit avec tout ce qu'il put trouver, se privant même de son manteau fourré. Je croyais rendre l'âme. Il m'eût fallu un lit bien chaud, des boules d'eau chaude, du thé brûlant, mais rien. Le matin, cependant, j'allais un peu mieux, et Afour reprenait sa vaillance. Les gens de la maison se confondaient en excuses, disant combien ils étaient honteux et au regret. On se remit en selle, et chemin faisant, le grand air acheva la cure. C'est ma 5e ou 6e asphyxie avortée. On dirait que je les cultive, sale et pénible chose. Obligé aussi d'interrompre sa solitude pour assister aux fêtes du Nouvel An qui ont lieu le 16 février. Alexandra n'y résiste pas, car le Nouvel An tibétain, appelé également Losar, est la fête la plus importante du calendrier tibétain. Elle est célébrée chaque année durant 2 semaines et sa date est changeable, décidée par le calendrier tibétain et souvent voisine du Nouvel An chinois. Cette fête du Losar est chère aux Tibétains, rythmé par des cérémonies anciennes qui mettent en scène la lutte entre le bien et le mal. Donc, Alexandra s'y prépare et elle écrit à Philippe 5 jours avant. Grande sera l'affluence des pèlerins et des marchands à Kumbum. Il y aura des danses religieuses, comme les mystères du Moyen-Âge, des cérémonies diverses, une grande foire. Le plus curieux, c'est l'exhibition annuelle des statues en beurre colorié. Je dois m'y rendre avec quelques pompes pour éviter d'être bousculé par le populaire qui s'écrase pour entrer dans les salles d'exposition. En pompe, cela signifie, en style du pays, que quelques vigoureux gaillards, en habit des grands jours, un fouet ou un bâton à la main vous précèdent et vous suivent comme garde du corps, ouvrant un passage, tapant dur sur le vulgaire. Oh, qui ne doit pas sentir beaucoup les orions appliqués sur ses épaisses houppelantes de fourrure, mais s'écarte, pénétré de respect pour le geste. Cet entourage m'oblige à revêtir, une fois de plus, ma veste de drap d'or des grands jours, mon châle jaune le plus chatoyant et mon plus rutilant bonnet pointu. Thank you. Le 21 février, Alexandra conte à Philippe ses grandes fêtes qui la ravissent. « C'est une des plus belles choses que j'ai vues dans le style chinois. Il y avait quantité de statues en beurre colorié, esquisement modelées et entourées d'une profusion d'ornements tous en beurre. Certaines étaient exposées dans des édifices improvisés, décorés de milliers de bannières, de lampes, de lanternes. J'ai fait le tour de cette exposition, escortée de gens portant des lanternes qui écartaient la foule assez compacte, et j'ai été reçue en cérémonie par les organisateurs des diverses exhibitions. Deux jours auparavant, j'avais été conviée à une séance musicale qui m'a enchantée. On y exécutait de la musique mongole. J'aurais voulu que tu eusses été là. Il y avait des flûtistes merveilleux. Pour terminer, il y a eu un morceau pour cymbales seules. Imagine 6 ou 7 paires de cymbales de cuivre de dimensions diverses et accordées en elles de façon à produire des intervalles musicaux. Les artistes les frappent, chacun suivant un rythme différent, et l'ensemble produit un véritable air. Quelque chose d'étrange et de prenant, évoquant l'idée d'une galopade de chevaux accourant du fond des steppes, amenant les hordes de gens, Gengis Khan. Je me suis délectée jusqu'au tréfonds de mon âme de musicienne. Peut-être surtout parce que la musique avait ici épousé les chansons que le vent répand pendant parmi les solitudes qui environnent les camps perdus au milieu du désert et accompagnent la caravane en marchant à travers l'immensité. Au palan des chevaux, par les monts, par les veaux, la caravane passe. Où va-t-elle en rêvant? Où s'en va la poudre au vent? Et vers l'espace, a dit Jean Richepin dans ses chansons touraniennes. Dans une des premières émissions que j'ai réalisées, je vous ai parlé de l'amour d'Alexandra pour la musique. Comme vous le savez certainement, elle a même été cantatrice professionnelle durant quelques années. Elle a souvent écrit à Philippe combien elle était sensible à la musique, que ce soit à l'orgue des églises, le chant ou bien les trompettes tibétaines. Un thème qui est également très cher à Alexandra Davinel est le féminisme. Elle fait partie de ces femmes féministes d'avant-garde, en avance sur leur temps, qui clament l'égalité des sexes. Alexandra a écrit de nombreux articles, et cela depuis la fin du XIXe siècle, dans différents journaux, prononcé des conférences, etc. Elle ne peut s'empêcher d'écrire à nouveau à Philippe lorsqu'elle lit dans la presse que le Sénat, en France, décide de considérer la question de l'admission des femmes aux droits électoraux. Nous sommes quand même en 1919 et il faudra attendre 1944 pour l'obtenir et 1945 pour l'exercer pour la première fois. Mais n'anticipons pas. Elle écrit « Je ne sais trop si la France aura le souci de ne pas rester en arrière sur ce terrain avec les grandes nations comme l'Angleterre et l'Amérique. J'envisage la question surtout au point de vue de la mentalité de la nation. Il est probable que le fait que les femmes prennent part à la vie politique tendrait à relever le sentiment général de leur égard qui, il faut l'avouer, est extrêmement peu flatteur en France et confine à celui des contrées dites non civilisées et sauvages. C'est là un grave obstacle à la puissance d'une nation. Nous voyons combien les États-Unis ou l'Angleterre nous sont supérieurs à ce point de vue. C'est une question de dignité, en somme, pour un peuple. Tu ne peux évidemment pas, toi qui n'as vécu que parmi des Français, te faire une idée de la différence d'atmosphère mentale existant entre la France et les pays anglo-saxons. Pour moi, qui ai passé pas mal d'années en contact journalier avec des Anglais, des Américains ou des Scandinaves, le contraste est frappant et tellement sensible que j'éprouve presque un malaise physique à me trouver au milieu de ceux que ma naissance fait de mes compatriotes. C'est comme si, au sortir de l'air frais des montagnes, j'entrais parmi la pestilence d'un marécage. La comparaison n'est pas flatteuse, certes, mais elle dépeint ce que je sens et ce que m'ont confessé ressentir plusieurs personnes, hommes et femmes, qui se trouvent dans ma condition. Ce n'est pas là une question de vertu. Nos grands alliés ne sont pas plus vertueux que nous, si vertu il y a en cette matière. C'est une question de caractère national. Chez nous, entre la fraction masculine et la fraction féminine de la nation, existe une guerre latente, une duplicité qui ne fait jamais trêve. La franchise, l'amitié, la fraternité n'existent pas. Je crois que le catholicisme est pour beaucoup dans cet état de choses. Il est une école malsaine pour les cerveaux féminins qu'il gave d'un mysticisme sensuel aussi débilitant que niais. Le protestantisme ignore ce genre de poison, bien qu'il en connaisse d'autres. Des personnes amies m'envoient de temps en temps les unes des journaux anglais, les autres un canard clérical français édité à Tientsin. La différence est frappante. En vérité, quand ce dernier croit être poli, aimable, toute vieille femme que je sois, je sens en le lisant le malaise que l'on pourrait éprouver à être transportée dans un endroit malpropre. Étrange, cette propension à être sale en esprit. Les hindous sont infiniment plus sensuels que nous et nous laissent fort en arrière en fait de raffinement voluptueux, mais ils ne sont pas sales en esprit. Et il est à la fois curieux et triste de constater que les Français, même vivant une vie très honnête et morale, n'en sont pas moins sales en esprit. Je n'incrimine pas uniquement les hommes. Les femmes sont de la même étoffe, parfois même pire. Si elles étaient différentes, elles donneraient une autre éducation à leurs fils. Voilà une bien longue dissertation à propos de l'électorat féminin. Pour conclure, j'en reviens à mon idée qu'il pourrait exercer une influence favorable sur nos mœurs, sur notre mentalité. Les femmes devenant collègues apparaîtraient sous un jour différent. Les hommes en France en viendraient sans doute à les respecter, et les femmes en viendraient probablement aussi à se respecter elles-mêmes. Au surplus, pour employer un terme plus diplomatique, je m'en fiche. Je ne serai jamais, selon toute vraisemblance, ni candidate, ni électrice, et n'ai davantage le désir de jamais venir en France. Magnifique texte sur l'évolution très tardive du féminisme dans notre pays. Plus tard, Alexandra travaille sur des traités de philosophie et brusquement s'épanche de reconnaissance envers son mari, grâce auquel elle peut vivre les rêves de toute sa vie. Il me reste à te dire une fois de plus, mon bien cher Nouchi, combien j'apprécie la bonne affection que tu me témoignes et qui me permet de réaliser, enfin, tardivement, les rêves de toute ma vie. Tu peux penser que mon genre de vie est peu confortable, misérable même, et que je suis une triple folle de délaisser pour cette existence rude l'aisance que je pourrais avoir chez toi. Le monde dit civilisé, avec sa vie étroite d'animal en cage, m'a toujours fait horreur et me répugne de plus en plus. Longtemps j'ai cru, avec désespoir, que jamais je n'arriverais à goûter les joies de la solitude et de la liberté. Grâce à toi, vraiment, j'ai une belle fin de vie. Et ris si tu veux, il me semble que je m'en vais vers mes dernières années, marchant dans une apothéose. Si mes vœux pouvaient avoir quelque pouvoir, tu serais le plus heureux des hommes, car il n'est pas un jour où je ne souhaite le bonheur, que le bonheur dont grâce à toi je jouis se reverse sur toi, multiplié au centuple. Au printemps d'avril 1919, Alexandra part en tournée, comme elle l'écrit à Philippe. Tout d'abord à Tidza, où a lieu une grande fête. Elle y séjourne quatre jours et rend visite au grand lama, mais elle est très déçue de cette rencontre, car elle pense qu'il ne mérite pas sa réputation d'érudit. Elle raconte la suite de ses aventures dans une lettre à Philippe à son retour à Kumbum, dont voici quelques extraits. L'étape est plus longue que je ne le supposais. Il y a longtemps, depuis mon départ des Himalayas, que je ne suis montée à cheval pour une si longue course. Je me sens fatiguée et à la fin, je m'arrête pour boire une gorgée de thé et me reposer. La caravane, elle, n'attend pas. À Four, l'homme de Lhassa et moi restons seuls dans un joli site boisé. Le thé n'a pas encore été retiré du sac de ma selle, je suis assis sur une pierre, lorsque le garçon de Lhassa dit « Oh, voici des hommes qui nous regardent à travers le buisson. Ils sont deux. Ils ont des fusils. Oh, en voilà quatre, cinq, ils viennent. » Dans ces moments-là, il ne faut pas montrer d'agitation. C'est mauvais à tout point de vue. Je ne me retourne donc pas pour vérifier où sont les hommes en question, mais j'ordonne. Reprends les chevaux tout de suite, nous partons, et tiens ton fusil prêt. Le lassapin est brave et a beaucoup couru le désert, il ne s'anime pas. Je me lève posément, marche en avant pendant qu'il amène les chevaux. En me levant, je regarde derrière moi et vois assez loin de nous, dans le bois, trois hommes armés qui nous regardent. Je commande à Four, « Toi, prends mon revolver dans le sac de droite de ma selle et donne-le-moi. » Et je continue à marcher. Quelques instants après, je me retourne. Étends la main pour prendre le revolver, mais que vois-je? Mon Igo de Dafour, qui lui n'est pas brave, avait la tête tellement troublée qu'il m'apportait ma bouteille à thé. Tu penses si j'éclatais de rire? Le nom du petit est Océan de Compassion. Tu vois l'application aisée. « Ah, lui dis-je, tu es certes bien nommé. On t'annonce des voleurs et tu songes immédiatement à leur offrir des rafraîchissements. Dommage que nous n'ayons pas des biscuits pour accompagner le thé. Allez, en selle, et nous partons. » Les gens du bois ne nous ont pas suivis. D'ailleurs, ils sont à pied. Le sorcier Golok nous procura des animaux qui devaient nous emmener voir Tai Yong et descendre de là jusqu'au fleuve jaune. Nous avons effectué le parcours en 3 journées, en moyenne 8 heures de marche sans arrêt chaque jour. Il faisait chaud et il n'y a pas la moindre ombre à espérer sur ces montagnes dénudées. J'ai pris quelques photographies du monastère de Changyong et puis, bien que les lamas nous aient conseillé de descendre par le chemin tournant, mes gens se sont obstinés à vouloir prendre le raccourci qui s'est trouvé être une descente à pic presque continuelle par des sentiers de chèvres, avec un sol de gravier s'éboulant sous les pieds. Il a fallu naturellement aller à pied tout le temps, environ 15 km, sous un soleil accablant, avant de pouvoir remonter à cheval dans la plaine. Une fois, en face du fleuve, qui est encore ici si loin de son embouchure, 3 fois large comme la Seine à Paris, il s'est agi de le traverser. 2 troncs d'arbres creusés et liés avec des cordes servent à transporter gens et bagages. Quant aux chevaux, on les attache à cet ancêtre reculé de nos grands paquebots et ils nagent comme ils peuvent. Le courant est très rapide, la manœuvre difficile. Comme l'ont passé mes 2 bêtes, le cheval que j'avais à lester rompit sa bride et s'en alla à la dérive, mais il lutta énergiquement et parvint à atterrir. Je passai à mon tour. De l'autre côté, le lama avait fait envoyer des bêtes pour nous rendre à sa résidence, peu éloignée de là. Je ne le vis pas car il était dans une période de retraite, mais je fis la connaissance de sa femme, très jolie et agréable. La demeure de l'incarné des 9 vallées, c'est son nom, est semblable à celle d'un prince chinois. Des jardins immenses, des corps de bâtiments disséminés de ci, de là. Ce qui ne l'empêche pas de vivre dans une toute petite maison et de coucher dans la même pièce où l'on cuit ses repas sur un poêle américain. J'étais invitée par les religieuses à aller voir leur ermitage à Namzong, c'est-à-dire la forteresse du ciel. Je m'y rendis, le lama prêtant des animaux. Un jour de marche, route avec des pentes excessivement raides, mais pas mauvaises. La forteresse du ciel justifie bien son nom. C'est un endroit très pittoresque, environné de monts en aiguilles, de couleurs rouges sombres, des pins embellissent le paysage. Il y a là une fort belle gompa, construite par le défunt lama, que celui des 9 vallées est censé réincarner. Les peintures à l'intérieur sont des plus intéressantes. C'est un monastère de la secte rouge, sans religieux. Ceux qui s'y rattachent sont des Nakpas aux longs cheveux, mariés pour la plupart et vivant dans leur famille, quelques rares individus parmi eux se retirant seuls en des ermitages. Ce temple possède une bibliothèque magnifique, mais les beaux volumes enveloppés de riches couvertures de brocart demeurent sans lecteur. Tout à côté du temple, le lama fait construire une sorte de palais chinois qui, quoique n'étant pas encore achevé, tombe déjà en ruine en maints endroits. C'est là que j'ai logé. Il y a aussi un monastère de la secte jaune et enfin, assez loin de là, sur une autre montagne, la demeure très simple d'une quarantaine de nonnes, jeunes et vieilles. Ces femmes ont été charmantes et désirent vivement que je vienne m'installer pour quelques mois chez elles. Ce serait agréable, n'était la difficulté de se ravitailler. Un jour, la majorité des religieuses et moi, nous nous sommes hissés sur l'une des aiguilles où il y a deux petits temples. Ascension périlleuse, le long de rochers perpendiculaires minuscules, les bonnes montagnardes m'ont poussé, tiré, presque porté, si bien qu'en dépit de mon pied, toujours douloureux, j'ai accompli cette excursion sans trop de peine. Ces femmes sont extrêmement gaies et rieuses. Certaines ont voyagé à pied à travers tout le Tibet. À Four, seul garçon de notre bande, a égayé tout le monde en chantant et en débitant des facéties. Alexandra a aussi rencontré à Namzong une Aljorma, c'est-à-dire une femme qui suit le yoga. Cette femme est fort intelligente, écrit-elle, et pas mal instruite en littérature tibétaine. Elle prête à Alexandra plusieurs manuscrits pour les faire copier. Ce sont des gens très très pauvres, mais elle paraît tellement désintéressée qu'ayant reçu un tout petit présent en argent d'Alexandra, elle lui a aussitôt apporté une énorme motte de beurre frais qui valait à peu près ce qu'elle avait reçu. Avant d'achever sa longue lettre à Philippe, Alexandra évoque la politique actuelle en Asie, les Coréens en révolte contre les Japonais, les Tibétains qui se débattent entre les Anglais et les Chinois. Partout, des atrocités. Et, écrit-elle, cinq grandes puissances qui jouent un rôle hypocrite. Mais n'anticipons pas. Et à la semaine prochaine, pour la suite des aventures de notre grande exploratrice. Au revoir et bonne semaine à toutes et à tous.